Bonjour à tous. Alors, c'est les vacances, vous savez tous. Et aujourd'hui, j'ai choisi un sujet un peu spécial. Le titre, c'est Jésus, notre roi serviteur. Et on va lire dans Matthieu, au chapitre 17, un passage qui vous est connu, versets 24 à 27. Et qui est peu utilisé dans les prédications. Je dois avouer que quand j'ai cherché des références, je n'en ai pas trouvé beaucoup. Mais je me suis accroché. Alors nous allons examiner ce matin un texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu et qui aborde le sujet de la relation des croyants avec les autorités civiles qui le gouvernent. Donc c'est un vaste sujet. Avant d'aller dans Matthieu, rappelons-nous quelques vérités de la parole sur ce sujet. D'abord, il faut savoir que toutes les autorités qui existent ont été instituées par Dieu et Dieu demande à ses enfants de nous soumettre à ses autorités supérieures, à l'exception toutefois des cas où notre obéissance nous entraînerait à désobéir à la parole de Dieu. Rappelons-nous aussi avec les héros de la foi de la lettre aux Hébreux, que les croyants sont étrangers et voyageurs sur la terre et qu'ils désirent les croyants une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. Jésus a dit à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Et Paul a adressé aussi ces mêmes paroles que Jésus à l'église de Philippe. Soyez, Philippiens chapitre 2, soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Et Jacques, lui, ne dit-il pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu et que celui qui veut être ami du monde, il se rend ennemi de Dieu. Alors rappelons-nous enfin que le ministère prioritaire de l'Église consiste à annoncer et enseigner l'Évangile, la bonne nouvelle du salut par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Un salut entièrement par grâce, puisque même notre foi est une grâce, c'est un don immérité de Dieu. Car tous les hommes naissent pécheurs, séparés de Dieu, pire, spirituellement morts par leurs péchés, et ils sont donc incapables par eux-mêmes de croire en Dieu, à moins que Dieu n'introduise d'abord en eux par son esprit le souffle de la vie spirituelle. Alors que nous étions morts par nos péchés, il est dit en Éphésiens chapitre 2, alors que nous étions morts par nos péchés, Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde et dans son grand amour, nous a rendus vivants avec Christ. Donc le ministère prioritaire de l'Église est donc de prêcher l'Évangile et de vivre en conformité avec les vérités qu'il enseigne, afin que cette bonne nouvelle puisse se répandre non seulement dans l'Église, mais autour de nous et dans le monde entier. En s'appuyant sur leur foi dans toutes ces vérités bibliques, certains croyants se disent exemptés de tout devoir citoyen dans une société humaine qui ne tient pas compte de Dieu et ni même son existence. Sont-ils vraiment exemptés de leur soumission aux autorités civiles ? Que nous dit la Bible à ce sujet? C'est justement la question des devoirs citoyens du chrétien, en particulier celui de payer ses impôts, que notre Seigneur Jésus aborde dans le texte que nous allons voir aujourd'hui dans Matthieu 17, versets 24 à 27. Nous savons que pendant les 6 derniers mois de son ministère public, Jésus a passé de moins en moins de temps avec les foules, et de plus en plus de temps seul avec ses disciples, Il s'est employé à leur donner une formation intense sur les principes propres à son royaume. Partout dans ses enseignements, il a inséré des rappels périodiques de ses souffrances, de sa mort, de sa résurrection imminente. Et c'est ce qu'il fait dans ce passage juste avant, pour la troisième fois, juste avant notre passage au verset 22, il est dit, « Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Au verset 23, « Ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. » Et ils furent profondément attristés. Et il se peut que, on peut penser que les disciples ne prennent l'allusion de Jésus au troisième jour qu'au sens figuré. Et que comme Marthe par rapport à Lazare, ils ne pensent qu'à la résurrection au dernier jour. Ils croient à la résurrection des justes et des injustes, comme le Seigneur l'a prédit par Daniel. Daniel chapitre 12. Jésus, le Fils de Dieu, omniscient, sait qu'ils sont lents à comprendre, que leur foi est petite, très petite, et qu'ils ont besoin de rappels fréquents, surtout au sujet de vérités qui sont non seulement difficiles à saisir, mais des fois pénibles pour nous à accepter. Maintenant qu'il a donné aux 12 cette troisième prédication de sa mort et de sa résurrection, Jésus donne à Pierre une leçon, on va la voir, une leçon privée quant aux obligations des croyants envers leur gouvernement humain, quel qu'il soit. Jésus lui enseigne que ses disciples ont des obligations envers les autorités civiles, même si celles-ci lui sont hostiles et finiront par le persécuter et le mettre à mort sur une croix infâme. Alors parmi les nombreux miracles que Jésus a accomplis, de l'aveu de nombreux théologiens, exégètes, l'un des plus étranges qu'on trouve dans la parole de Dieu est celui du stater, c'est-à-dire d'une pièce de monnaie dans la bouche du poisson que le Seigneur demande à Pierre d'aller pêcher pour payer l'impôt du temple. On aimerait tous, ici présents, aller à la pêche pour payer ses impôts, n'est-ce pas ? Moi le premier. Donc, le Seigneur demande à Pierre d'aller pêcher pour payer l'impôt du temple. Et l'évangile de Matthieu est le seul à rappeler cet épisode. Alors lisons Matthieu 17, 24 à 27. Verset 24. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ?»« Oui, » dit-il. Voilà, il répond, « Oui, sans problème. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Que t'en semble, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts ? De leurs fils ou des étrangers ?» Et il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. » Mais, il continue, « Pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche, tu trouveras un stater. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Alors, dans ce passage, Jésus se révèle être le maître pédagogue, puis le maître serviteur, et enfin le roi serviteur. Alors, voyons d'abord Jésus, le maître pédagogue. Bon, et comment ne pas relever le caractère insolite de ce miracle ? Une pièce de monnaie dans la bouche d'un poisson. Vous vous rendez compte ? Et surtout que ce miracle, il tranche par rapport à tous les autres miracle qu'a opéré Jésus. Il ne s'agit ni d'une guérison, ni d'une résurrection destinée à répondre à la souffrance humaine, pas plus que d'une démonstration de l'autorité du Seigneur face aux menaces des éléments ou les atteintes du malin. Ici, Jésus accomplit un miracle pour s'acquitter de son impôt. Qui n'aimerait pouvoir en faire autant ? Cet acte, par ailleurs, ne s'imposait pas car Jésus et ses disciples n'étaient pas à court d'argent. La bourse commune de l'école du maître devait suffire à leurs besoins. Selon l'évangile de Jean, c'est Judas qui la tenait. Et lors du dernier repas du Seigneur avec les 12, elle devait contenir assez d'argent pour que les disciples s'imaginent dans leur tête que Judas était sorti pour en donner aux pauvres ou acheter des provisions. Luc précise par ailleurs que certaines femmes que le Seigneur avait délivrées d'esprits mauvais et guéries de diverses maladies assistaient Jésus et ses disciples de leurs biens. Verset 24, « Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes ?» Alors, l'épisode a lieu à Capernaum. Ce sera le dernier séjour de Jésus et des 12 dans la ville avant la mort du Seigneur. Nous sommes dans le tout dernier mois de son ministère, puisque l'impôt du temple se prélevait au plus tard à Pâques, à la Pâque. Jésus lui-même, comme à son habitude, réside chez Pierre, car les agents de l'impôt du temple s'adressent à l'apôtre, Pierre, le maître du lieu. Les autres disciples, ils ne sont pas là, on ne sait pas où ils sont, mais ils ont dû profiter de ce passage à Capernaum pour rendre visite à leur famille, car plusieurs d'entre eux y avaient résidé. Tel était le cas d'André, le frère de Pierre, de Jacques et Jean, les fils de Zébédée et de Matthieu. Et le stater trouvé dans la bouche du poisson, en effet, servira uniquement à payer l'impôt de Jésus et de Pierre. Alors, il faut savoir que chaque année, tout juif adulte de Palestine et de la diaspora était tenu de payer l'impôt du temple, qui s'élevait à 2 drachmes, et ce qui représentait environ 2 journées de travail pour un ouvrier moyen. Alors, on pouvait s'en acquitter directement à Jérusalem lors du grand pèlerinage de la Pâque, ce qui explique la présence de changeurs dans le temple, car on n'y acceptait que de l'argent juif, sans image païenne sur la pièce. Mais dans les provinces, qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Et dans la diaspora, il était possible de payer l'impôt 1 mois à l'avance, plus tôt, ce qui situe cet événement environ 1 mois avant sa mort. Et cette exigence patriotique de l'impôt du temple s'inspirait du livre de l'Exode. Au moment d'un recensement, toute personne de plus de 20 ans, riche ou pauvre, devait donner une somme d'argent, un prélèvement dû à l'Éternel, en rançon pour leur vie. Cet argent était destiné à l'entretien de la tente de la rencontre. Petit peu d'histoire, il faut savoir que après la destruction du temple, l'empereur Vespasien, roumain, il a imposé aux Juifs qui étaient dispersés dans l'Empire romain l'impôt du temple. Mais le temple n'existait plus. Ça ne fait rien. L'impôt du temple de Jupiter qu'ils avaient mis à la place. Vous vous rendez compte ce que devait être pour un juif d'être obligé de payer cet impôt pour un dieu romain. Ça devait être quelque chose. À l'époque de Jésus, les prêtres de Jérusalem et les rabbis en étaient exemptés. C'est peut-être pour cela que les percepteurs se demandait si Jésus paierait, car Jésus était lui-même très critique vis-à-vis des autorités du temple. Cette taxe était imposée tant aux Juifs qu'au reste du monde, pour rappeler le grand prix que quiconque devait payer s'il s'opposait à Rome. Là, je parle de cette taxe qu'a imposé Vespasien. Tout le monde doit la payer. Aucune exception. Votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes ? Oui, dit Pierre. Pierre, qui connaît la pratique de Jésus, réplique à ses interlocuteurs que son maître paye l'impôt. Bille en tête, il répond. Il répond à la place de Jésus. Ce qui est bien dans son style. Pour lui, l'incident est clos, on n'en parle plus. Mais pour Jésus, il en est tout autrement. Le problème de l'impôt du temple, qui pourrait paraître secondaire ou dérisoire, semble revêtir un enjeu central à ses yeux. Très souvent, en effet, Jésus attend d'être interrogé pour enseigner ou pour guérir. On le voit dans les évangiles, telle a été son attitude envers l'homme riche qui cherchait à hériter la vie éternelle, envers le docteur de la loi qui voulait connaître le plus grand commandement, ou les aveugles de Jéricho qui espéraient être guéris. Et c'est aussi souvent en réponse à des questions que Jésus enseigne ses disciples. Interrogé par Pierre, Jacques, Jean, André, il annonce les événements des temps à venir. Questionné sur le sens de la parabole de l'ivraie, il leur en donne l'explication. Soumis au désir des apôtres de savoir qui est le plus grand dans le royaume des cieux, il leur parle de conversion. Jusqu'au dernier repas, dans la chambre haute, qui est lui aussi émaillé de questions et de remarques auxquelles Jésus répond, tout le temps. En divin pédagogue, le maître, il attend que les choses mûrissent. Il savait ce que ses élèves pouvaient porter. Jésus n'a jamais tenté d'écraser autrui par sa connaissance ou sa prédication, ni cherché à se faire plaisir lui-même au lieu d'édifier autrui. Jésus a été bon et patient avec eux, comme il est avec nous, n'est-ce pas? Parfois, cependant, Jésus prend l'initiative lorsque l'enjeu l'exige. C'est lui qui demande à ses disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» C'est lui qui annonce sa mort et sa résurrection. Et ici, c'est encore Jésus qui prend les devants et demande à Pierre, verset 25, « Que t'en semble, Simon, les rois de la terre, des qui perçoivent-ils des tributs et des impôts? De leurs fils ou des étrangers ?» Et Pierre répond, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. » Alors Jésus aide Pierre à réfléchir avec une petite histoire sur les rois de ce monde qui ne lèvent en général pas d'impôts sur leurs propres parents, propres enfants. L'enjeu que soulève le Seigneur peut se résumer ainsi. Qui sont les vrais fils du temple, les vrais fils du royaume? Cette question s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Les habitants de la Palestine avaient leur clergé ou les membres de la communauté réunis autour de Jésus. Qui d'autre que le Seigneur est le fils légitime de Dieu, du Dieu auquel le temple est consacré? Par leur opposition à Jésus, les membres du clergé se sont faits usurpateurs. 3 semaines plus tard, Jésus pénétrera à Jérusalem, assis sur un ânon, acclamé par le peuple. Il se rendra au temple, il en chassera les changeurs de monnaie et affirmera son autorité sur la maison de son père, dont les prêtres en avaient fait une caverne de brigands, de voleurs. Et il paiera cet affront au péril de sa vie. Cette vérité demeure. Traités en étrangers, les membres de la communauté réunie autour de Jésus n'en sont pas moins les fils légitimes du temple. Jésus paye l'impôt pour lui et pour Pierre. Le contexte, il faut regarder le contexte de notre passage, nous aide à comprendre l'acte de Jésus. Juste avant, dans le passage qui précède notre texte, Jésus déclare que lui, le Christ, va bâtir son Église. chapitre 16, versets 15 à 19, il dit à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Et dans le passage qui suit notre texte, au chapitre 18 de Matthieu, Jésus énonce les principes qui vont guider le comportement des membres de l'Église de Christ, des filles et des fils de son royaume. Être citoyen du royaume de Dieu n'exempte pas le chrétien de soumission aux autorités humaines mises en place par Dieu. En se soumettant à elles, il témoigne, ce chrétien, de son amour et de sa soumission à Dieu qui les a instituées. Nous venons de voir Jésus, le maître pédagogue. Maintenant, on va voir Jésus, le maître serviteur. La situation des disciples de Jésus, du vivant du Seigneur, peut se comparer à la situation des chrétiens d'aujourd'hui. De même qu'en ce temps-là, aujourd'hui encore, les vrais fils du royaume sont traités en étrangers. De même, aujourd'hui, on le sait encore, le monde entier est au pouvoir du malin. Et nombreux sont ceux qui collaborent au dessein de l'usurpateur. Face à eux, formant une armée, non de l'ombre, mais de la lumière, les chrétiens résistent. Car ils savent que malgré les apparences, ce monde leur appartient. Ainsi que le proclame l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Ainsi, comme au temple, d'alors, sur cette terre, ce n'ont pas les chrétiens, mais ceux qui rejettent Christ qui ne sont pas chez eux. Ils occupent la terre, mais n'en sont pas les héritiers. Ce sont les doux et les humbles qui la reçoivent en héritage, a enseigné Jésus dans les Béatitudes. Car ils reconnaissent leur pauvreté spirituelle, se repentent de leurs péchés et ont soif de sainteté et de justice. On voit cela dans Matthieu au chapitre 5. Un jour viendra où, en effet, où la création tout entière sera libérée du péché. Comme l'affirme Paul dans son épître aux Romains, il dit, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Un jour viendra où la Jérusalem céleste descendra ici-bas, où le Seigneur établira son royaume éternel sur une terre régénérée et où la justice habitera. C'est pourquoi l'ambition du Fils du royaume en ce monde, conscient de la dignité de son statut, n'est pas de fuir, mais de résister. Il cherche à s'opposer autant que possible au mal qui avilit toutes les composantes de la création belle et bonne de Dieu. Alors lisons le verset 27 qui dit « Mais pour ne pas les scandaliser, c'est Jésus qui parle, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. » Malgré son statut de fils, Jésus ne refuse pas de payer l'impôt du temple. Son souci est de ne pas scandaliser les Juifs, trouve-t-on dans plusieurs versions de l'Écriture. Alors, cette transcription française du verbe scandalizo prête à confusion car, contrairement au sens moderne de scandaliser, le mot grec ne signifie pas choquer, mais faire tomber, amener à pécher. Ainsi, en s'acquittant de l'impôt, Jésus évite d'ébranler ses concitoyens pour un problème somme toute annexe, car l'enjeu n'est pas l'impôt, mais le temple. C'est pourquoi la véritable manifestation de l'autorité du Fils sur la maison de son Père aura lieu quelques semaines plus tard à Jérusalem, quand il en expulsera les marchands. Mais ici, comme à tant de reprises, désirant ne pas éteindre la mèche qui faiblit, le Seigneur se fait serviteur. Il choisit le chemin de la croix. Il est dit dans la parole de Dieu en Ésaïe, « Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. » Alors nous avons vu Jésus, le maître pédagogue, puis le maître serviteur. Nous allons voir maintenant Jésus, le roi serviteur. Le contexte des versets qui suivent immédiatement notre passage pose la question : qui est le plus grand dans le royaume des cieux ? Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ? Jésus répond à cette question en disant : celui qui se convertit et sert autrui. Lisons Matthieu 18, 1 à 5. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Et Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit à mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Jésus, le roi serviteur, prend l'exemple d'un petit enfant qui reconnaît son péché et son indignité, place sa confiance en Dieu, dépend entièrement de lui et considère Jésus comme son unique espoir. Ce petit enfant est un modèle de foi et d'humilité. Nous sommes appelés à résister au mal et au péché en servant avec humilité notre Dieu et notre prochain. C'est le chemin de la croix emprunté par Jésus, notre modèle suprême d'humilité et de soumission à la volonté de son Père. C'est ce que nous dit Pierre dans sa première épître. Il dit, 1 Pierre chapitre 2, « C'est à cela en effet que vous avez été appelés, parce que Christ a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Il a porté nos péchés afin que, morts à nos péchés, nous vivions par la justice. » Et Jésus a choisi de monter à Jérusalem en suivant ce même chemin, ce chemin-là, pour ne pas ébranler ses concitoyens. Le serviteur paye l'impôt. Cependant, pour affirmer la foi de Pierre et déclarer son identité, il ne s'en acquitte pas à la manière des étrangers. C'est d'une façon toute seigneuriale, en fils et en maître des éléments, qu'il le fait. C'est un poisson qui lui apporte le statère nécessaire pour son épée, pour son impôt et celui de Pierre. Insolite ce miracle. Ce miracle nous sert de témoignage. Dans son service, Jésus n'a jamais cessé de régner. Dans son humilité transparaît sa divinité. Comment Pierre pourra-t-il alors exercer
son statut de fils du royaume en répondant à l'appel du roi serviteur? L'étonnante réponse qu'enseigne le texte est la suivante. En faisant pour sa gloire ce qu'il sait déjà faire, car c'est en péchant que Pierre, le pécheur de métier, s'associe au miracle du Seigneur. Ainsi, nos actes de résistance sont appelés à s'inscrire dans l'humilité de la vie quotidienne. Tel est le courage qui manifeste notre dignité. Alors, en conclusion, nous ne savons pas comment les autres disciples payèrent leurs impôts dans leurs familles respectives. C'est un des nombreux miracles que Jésus accomplit uniquement pour Pierre. Il avait guéri sa belle-mère, il l'avait aidé à pêcher, il lui avait permis de marcher sur l'eau. Il guérira encore l'oreille de Malchus, que Pierre avait blessé, et délivrera Pierre de prison plus tard. Il n'est pas étonnant, dès lors que Pierre ait écrit dans son premier épître, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Jésus connaissait le besoin de Pierre et il put y subvenir. Alors qu'il rentrait dans la maison où se trouvait Jésus, Pierre pensait, lui, avoir résolu le problème. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, qu'il puisse dire à Jésus ce qu'il devait faire, Pierre dit à Pierre que ce que celui-ci devait faire. Dieu, le Père, avait interrompu Pierre sur la montagne. Et maintenant, Dieu, le Fils, l'interrompit dans la maison. Si seulement nous laissions Jésus donner les directives, nous le verrions subvenir à nos besoins pour sa gloire. C'est le seul miracle dont nous ne connaissons pas le résultat. Nous attendons à lire dans la Bible le verset suivant. Pierre alla à la mer, jeta l'hameçon, pêcha un poisson, et quand il ouvrit sa bouche, il y trouva une pièce qu'il utilisa pour payer la taxe du temple pour lui-même et pour Jésus. Mais ce verset 28 ne s'y trouve pas. Alors comment savons-nous que le miracle s'est accompli? Parce que Jésus a dit que ce serait fait. Sa parole fait écho au passage de 1 Roi au chapitre 8. 1 Roi chapitre 8, verset 56. « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune, hein, il est bien écrit, n'est restée sans effet. » Alors nous devons féliciter Pierre pour sa foi. Les gens sur la rive avaient l'habitude de le voir avec un filet dans la main, mais pas avec une canne à pêche. Pierre a eu la foi en la parole de Jésus, et Dieu honora cette foi. Si nous faisons confiance au roi et obéissons à sa parole, il se viendra à tous nos besoins. Le Fils de Dieu s'est soumis à tout ce qu'impliquait sa condition humaine, car c'est ce que le Père avait trouvé bon pour lui. Et tout en conservant sa prééminence, Jésus associe Pierre à son geste. Il rappelle ainsi le devoir de se soumettre aux autorités terrestres, tout en jouissant des privilèges de fils du royaume. Cet enseignement divin est toujours actuel. En étant un bon citoyen, le croyant use d'amour envers les autres humains, même ceux qui sont perdus et injustes. En étant un bon citoyen, il use de respect envers le gouvernement humain que Dieu a institué, même lorsque ses leaders sont impies, corrompus et oppressifs. Étant un bon citoyen, il use d'amour envers Dieu, ainsi que sa patrie et ses compatriotes. À la lumière d'un tel témoignage, le monde qui nous observe se sent poussé à considérer la puissance rendant un tel amour possible. Prions. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Merci pour cet exemple que tu donnes, que tu nous as donné, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à suivre ton exemple de soumission au Père et d'humilité, afin que le monde où tu nous as placés voit en nous une puissance et un amour qui ne vient pas de nous, mais de toi, le Dieu vivant et vrai, pour la gloire de ton nom. Amen.